Fort d'un projet peu banal, Benoît Kubiak, avec son entourage, a monté son association Avenir Climat. Dans le but de voyager longtemps et loin, mais sans avion, il a monté également un projet du même nom, Avenir Climat. Projet qui l'a amené à traverser une quarantaine de pays dans l'objectif d'aller à la rencontre d'associations, d'agriculteurs, de politiques, de scientifiques et de recueillir nombre de témoignages quant au changement climatique. Nous l'avons reçu à Radio Nevers, accompagné de Dominique Bourbao, directrice du Conseil local du développement durable. Aujourd'hui, donc, nous recevons Dominique Bourbao, directrice du CL2D, Conseil local du développement durable.
Bonjour.
Et donc, Benoît Kubiak. Bonjour, Benoît.
Bonjour.
Vous êtes bénévole d'une association nommée Avenir Climat. Vous vous êtes lancé dans un projet du même nom, Avenir Climat.
Oui, un voyage.
Un voyage. Donc, vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. Donc, pour resituer un petit peu, dans un premier temps, ce qui vous rassemble aujourd'hui, c'est la semaine de la mobilité et de la sécurité routière.
Tout à fait. Tout à fait, puisque Benoît était déjà venu en 2008 pour la semaine européenne de mobilité. Ça a un peu changé de nom, mais ça, c'est pour les infographistes et les publicistes travaillent.
Donc Benoît, vous voulez nous présenter votre projet ?
Mon projet, c'était un voyage qui a débuté en 2008. Et le but, c'était de parcourir l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient à travers des reportages, donc de rencontrer des personnes, des hommes et des femmes qui luttent contre le changement climatique, de ramener des reportages sous n'importe quelle forme, de la photo, de la vidéo, du texte ou du son, et puis de partager ça en France durant mon voyage avec des scolaires ou avec mon site internet. Et puis maintenant, je débute une série de conférences ou d'expositions et de diaporamas.
Donc 60 000 km, je crois, parcourus donc, entre février 2008 et juin 2010.
Ouais, j'ai voyagé sans avion, je voulais être cohérent avec l'idée du voyage qui était d'étudier le changement climatique. Et donc je me suis déplacé en transport en commun, en stop ou même en cargo, parce que là dernièrement j'étais en Afrique et je suis rentré en Europe en tant que passager d'un cargo pendant 10 jours. Ce qui m'a permis d'éviter pas mal de CO2, puisqu'un retour en avion, j'aurais consommé à peu près une tonne de CO2 pour faire le trajet retour. Et avec le trajet en cargo, j'ai consommé uniquement une quarantaine de kilos de CO2.
Vous avez traversé une quarantaine de pays, vous disiez ?
Oui, c'est soit des pays, des États-nations comme on connaît bien, comme la France et l'Allemagne. Il y a des pays avec des statuts un peu différents. C'était par exemple la Palestine ou le Sahara occidental. Et puis des États complètement imaginaires et utopiques, comme la commune libre de Christiania au Danemark. Donc c'est une ancienne base militaire qui a été squattée depuis les années 60 au milieu de la ville de Copenhague et qui a développé tout un parlement, une économie et un fonctionnement autogéré et indépendant de l'État danois.
D'accord, comment cela est-il possible ?
Il y a un millier d'habitants qui se sont retrouvés, qui habitent sur cette zone-là, qui ont reconstruit les égouts, qui ont mis en place leur propre juridiction et qui ont déclaré leur indépendance par rapport à l'État danois. Et donc vous avez une commune autonome qui fonctionne avec des crèches, avec des écoles, avec des centres de formation, avec des usines, avec un bureau de poste, avec des bars, avec des salles de concert, des fabricants et des marchands de vélos également, et qui gèrent en autonomie leur vie collective et quotidienne.
Donc cette autonomie s'est déclarée d'un côté politique ou justement pour se rapprocher de l'environnement ?
Ça a été c'est une déclaration politique au départ, très clairement de vivre en autogestion sur des principes très proches de l'anarchie, et puis en même temps de pouvoir aller plus loin sur des techniques plus amicales avec l'environnement. Donc tout ce qui a été la gestion des eaux, la gestion des déchets s'est fait beaucoup plus en avance que dans le reste de la ville de Copenhague. La circulation des voitures est énormément restreinte au sein de Christiania. Donc il y a eu un développement du transport de vélo assez important. Et puis il y a tout l'aspect également de démocratie directe qui est mis en place avec une personne, une voix. Et donc les résidents permanents de la commune libre de Christiania participent tous à des assemblées générales qui décident de la vie quotidienne et du positionnement politique de cette commune.
Donc pour revenir un petit peu plus largement sur tous les pays en fait dans lesquels vous êtes passé, vous êtes allé à la rencontre de personnes justement et aussi d'associations en lien avec l'environnement. Que ressort-il pour vous de ces rencontres ?
Alors il y a eu plus d'une centaine de reportages, donc ça fait énormément de points de vue différents. Et pourtant, chacun converge vers le fait que le climat est en train de changer, que ce changement est en train de s'accélérer, qu'il faut réagir rapidement et qu'il faut réagir collectivement. Par exemple, des scientifiques que j'ai rencontrés en Slovénie, Madame Bogataj, qui est membre du GIEC, donc ce groupe international d'experts pour le changement climatique, et qui travaille pour orienter les travaux de l'ONU. Elle travaille à tous les niveaux, au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial, et elle est vraiment désespérée, elle, sur le manque de volonté politique d'agir au niveau international pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et elle, ce qu'elle réclame, c'est, comme on a vu au XVIIIe siècle, un siècle des Lumières, et ben de réclamer également maintenant une révolution culturelle complète qui nous permettrait de changer notre mode de fonctionnement et notamment de consommation et de production pour réussir à limiter l'impact du changement climatique. On a eu au siècle dernier, entre 1900 et 2000, une hausse du niveau de la mer, par exemple à Brest, de 30 cm, et le GIEC prévoit une hausse de 3 mètres d'ici la fin du siècle. Donc un chamboulement complet de tout ce qui est la côte, hein, donc tous les ports, les villes côtières qui vont disparaître sous les eaux, énormément de mouvements de population, puisque les plus grandes densités de population sont liées près des côtes, et donc la création de mouvements de réfugiés climatiques qui pourraient atteindre plusieurs centaines de millions de personnes d'ici 2100. Et donc pour Mme Bogataj, le fait de ne pas avoir de réaction politique forte dès maintenant, concrètement, va nous amener vers des problèmes beaucoup plus importants à gérer dans le futur. Un autre exemple, c'est par exemple avec les Africains que j'ai rencontrés en début d'année. Eux vivent le changement climatique très concrètement avec une hausse des températures qui est déjà très forte sur l'ouest de l'Afrique. Quand j'ai quitté le Burkina, il faisait 46 degrés à l'ombre. Très dur quand on n'est pas du tout habitué à survivre, et puis même quand on est habitué, pour les Africains, c'était très compliqué. C'est des paysans qui sont très pauvres. La majorité de la population du Burkina ou d'Afrique de l'Ouest en général est paysanne. L'immense majorité de cette population paysanne n'est pas du tout mécanisée, c'est-à-dire qu'ils n'ont que leurs mains ou quelques outils de base pour travailler le sol. Et lorsqu'ils font des plantations et que ces semences qu'ils ont plantées dans le sol ne peuvent pas se reproduire parce qu'il y a une sécheresse ou parce qu'au contraire il y a une inondation qui est arrivée alors qu'elle n'était pas du tout prévue à cette période-là, ils vont se retrouver sans production alimentaire, sans ressources alimentaires. Et vu que c'est des systèmes qui fonctionnent en autarcie quasi totale, il n'y a pas de circulation d'argent, il va falloir qu'ils trouvent le moyen de se créer de l'argent pour acheter à manger.
Et donc comment ils s'en sortent ?
Ben, pour l'instant, c'est de la déforestation. C'est-à-dire qu'ils vont aller couper le peu de forêt qu'il leur reste pour le vendre comme bois pour chauffer les plats pour la cuisine. Et donc, on va avoir un cercle infernal avec les impacts du changement climatique qui vont être plus de sécheresse ou des inondations subites qui vont détruire les récoltes. Pour pouvoir manger tout de même, les paysans vont aller couper le peu de forêt qu'il va rester et qui va augmenter le problème au niveau local.
Et donc aujourd'hui, quelles seraient éventuellement là où les solutions envisageables ?
Alors on va terminer avec l'Afrique, parce que c'est vrai que les solutions, ce n'est pas aux Africains qui revient de changer leur mode de vie. Ils ont besoin de développer la santé, la culture, l'éducation et toute cette autonomie alimentaire qu'ils n'ont pas pour l'instant, parce que ils vivent encore sous une période néocolonialiste, même si c'est des États indépendants. La France et les entreprises européennes ont encore une très forte mainmise sur l'économie locale et sur l'industrie. Et donc, c'est à nous, pays européens, d'agir directement. Parce que notre mode de vie, notre consommation, quand on se déplace en voiture, quand on va consommer des produits qui ont fait le tour du monde avant d'arriver dans notre assiette, ou avoir des maisons passoires qui consomment énormément d'énergie, c'est ces sources-là de gaspillage qui provoque ensuite les émissions de gaz à effet de serre et notamment du CO2. Donc il y a un niveau individuel à agir, mais il y a également un niveau national et un niveau européen.
Oui, vous me disiez tout à l'heure que le niveau personnel est bien, mais ne suffit pas aujourd'hui. Il faut des avancées collectives.
Bien sûr, et tout est lié à ce niveau-là. Quand vous allez travailler, vous allez faire un déplacement entre votre domicile et votre travail. Si le prix du mètre carré est trop important ou si les loyers sont trop chers à proximité de votre travail, vous allez devoir aller chercher quelque chose à l'extérieur. Si l'immeuble qu'on vous propose en ville ne vous plaît pas parce qu'il est insalubre, parce qu'il est mal isolé, parce qu'il n'est pas accueillant, vous allez chercher un petit pavillon à l'extérieur ou aller essayer d'habiter dans un village, ce qui est plus agréable. Alors ce qu'il faudrait qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une mixité des... pour cet exemple-là en ville, d'avoir une mixité des fonctions à l'intérieur de la ville, que vous puissiez travailler et habiter à proximité. Ça vous évite de vous déplacer en voiture, ce qui est une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis pour l'alimentation, par exemple, maintenant, on a très peu de maraîchage à proximité des villes, donc on va être obligé d'importer des produits. Avec la déréglementation qu'on connaît avec un système capitaliste et un système libéral, vous allez avoir des produits qui viennent du monde entier avant d'arriver dans notre assiette, alors qu'on pourrait très bien les produire, qu'on est en capacité naturelle, biologique, de les produire au niveau local. Donc ça, c'est encore un deuxième problème. Donc c'est des politiques globales qu'il faut mettre en place. Un dernier exemple, si vous êtes convaincu dans votre famille que vous allez consommer des produits bio à chaque repas ou chaque semaine, c'est très bien, c'est un premier pas. Mais si vous êtes, par exemple, parent d'élève et que vous arrivez à décider votre élu de votre commune à ce que ce soit le restaurant scolaire en totalité qui passe en agriculture biologique, vous voyez bien que le volume de consommation de produits bio va être complètement différent.
Ça, ce problème a déjà été évoqué plusieurs fois. Souvent, on nous répond que c'est un souci économique aussi.
Oui, c'est un souci économique en effet, parce que pour l'instant, l'agriculture biologique n'est pas subventionnée au même niveau que l'agriculture dite conventionnelle, qui est beaucoup plus polluante, et le marché n'est pas autant dérégulé. Et donc, quand vous êtes en agriculture biologique, vous avez des pertes de production, parce que vous n'avez pas de système chimique de défense, donc la productivité est moins forte, et puis également, vous avez beaucoup moins de subventions sur ces systèmes-là, et ça fait que vous avez au final un produit qui est plus cher. Sur certains produits, pas sur tous, mais vous avez un système qui est plus cher que l'agriculture conventionnelle.
Nous retrouverons Benoît et Dominique demain soir à l'édition de 18h15. Ce soir, dès 19h35, Benoît Cubiac animera une conférence un peu particulière dans la salle de conférence du lycée Jules Renard de Nevers. Conférence particulière puisque le public choisira les pays ainsi que les débats. Et puis demain, Benoît Cubiac animera une conférence publique dès 18h à l'agence ABW au 15 rue du Fer à Nevers. Passez un bon moment avec Radio Nevers. Je vous retrouve tout de suite pour votre bulletin météo.